17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Oui, aujourd'hui les grands témoins avec le monde de la radio et des invités particuliers. D'abord, les dames. Bonjour Edou Gentil.
Oui, bonjour Nasser.
Vous avez fait de la radio pendant plus de 25 ans.
Oui.
France Info, France Inter. Vous êtes pédopsychiatre, vous êtes écrivain.
Enfin, je suis pédiatre.
On écrivaine, hein, bien
pédiatre.
Sûr. Maintenant, avec l'écriture inclusive, il faut faire attention. Donc, on ne vous présente plus. Louis Bachou, qui est avec nous, qui a fait de la radio en Algérie dans les années 40, je crois, 50.
Oui, 50. 50.
50. Vous avez fait deux ans de radio à Radio Paris.
Et puis, Radio Alger.
C'est ça. Et Kim que vous connaissez tous sur Beurre FM. Kim qui est un pilier, une vedette, un incontournable à la fois de l'histoire de Beurre FM, mais aussi du monde de la radio, du monde du spectacle et du plaisir de façon générale. Kim qui était un jeune auditeur un fils d'émigré qui habitait Nantes, et puis il a été attiré par la radio, et un jour il est venu, et ça a fait son chemin. Bonjour Kim, merci d'être là.
Bonjour et merci, hein. Ça fait plaisir d'être autour de cette table avec des personnalités qui ont marqué l'histoire déjà de la radio.
Alors, vous êtes de plusieurs générations.
Oui.
Ce qui vous anime tous les trois, à des stades différents, c'est d'abord... Quoi, c'est l'amour de la radio. Qu'est-ce qui se passe dans cette...
C'est que la radio, c'est un outil extraordinaire pour communiquer, pour moi comme pédiatre, pour avoir vraiment des messages pour les parents. Parce que je trouve que on a vraiment besoin d'être informé quand on a la grande responsabilité d'un enfant. Et donc, j'ai beaucoup écouté Françoise Zolto pendant 3 ans sur France Inter. Après, j'ai partagé du temps avec elle. Elle a préfacé mes livres. Et c'est comme ça que Jacques Pradel, qui avait donné la parole à cette grande psychanalyste pédiatre sur France Inter, qui avait passionné les parents, qui avait révolutionné la psychologie de l'enfant avec sa parole « Le bébé est une personne, une vraie personne, pas un tube digestif », elle avait été écoutée avec passion. Et Jacques Pradel m'a demandé à ce moment-là de prendre la suite et d'entrer sur France Inter. Et j'y resterai, France Inter, France Info, pendant 26 ans, à donner la parole aux parents. J'ai beaucoup de bébés aujourd'hui qui sont mes anciens auditeurs. C'est vraiment un bonheur, quoi.
En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que d'abord, vous avez une très belle voix et qu'elle passe magnifiquement à l'antenne, mais que... on ne se lasse pas de vous écouter.
Merci.
C'est incroyable.
C'est
on a envie de vous
passion.
Écouter, mais en permanence. Et puis quand vous êtes en télé aussi, de vous regarder. Parce que en tout cas, c'est un vrai plaisir que de vous voir. Louis Bachou, vous avez connu, vous êtes né à Alger, vous avez été élevé dans les Aurès, vous êtes architecte, vous avez une histoire fabuleuse. Mais pendant, je crois, 2 ans, vous étiez sur Radio Alger. Expliquez-nous en quelle année.
C'était très exactement en 1950. En 1950, j'ai 15 ans. Et j'ai offert... On m'a demandé de passer à Radio Alger, qui était en face du lycée Gautier. Et à cette époque, rappelons-nous tout de même... que la radio, c'était la proximité, c'était la capacité de parler à tout le monde autour de soi. C'était tout neuf. Rappelons-nous, il faut toujours redonner les données. 1921, la radio s'installe en France.
C'est à la Tour Eiffel.
C'est extraordinaire.
C'est la victoire de Gustave Eiffel qui impose la Tour Eiffel, parce que l'armée décide pour la transmission d'utiliser la Tour Eiffel, et c'est le début de Radio Paris. On rappelle un peu l'histoire.
Ah, donc, je suis un bon élève du lycée Gautier, et Radio Alger est en face, et on m'a demandé de passer à la radio.
Ça, c'est 1950 ?
1950, et à ce moment-là, un journaliste dont j'ai oublié le nom m'a dit « Mais pourquoi ne présenterais-tu pas la radio des jeunes ?» La radio des jeunes. Et je suis parti avec...
Vous avez quel âge à ce moment-là ?
Ben, j'avais 15 ans. Et à 15 ans, j'ai monté la radio des jeunes avec, d'ailleurs, un copain qui est de Vich, entier connaît bien, qui s'appelait Robert Regard, et une jeune femme qui a été ma première épouse et qui était André Tibica. Et nous avons monté avec tous les copains Radio des Jeunes à Alger, et nous étions extrêmement ravis parce que pour la première fois, mon père m'écoutait. Ma mère m'écoutait.
Alors, qui vous écoute à ce moment-là? Il y a des postes radio collectifs. Les radios individuelles, c'est pas encore ça. On se réunit autour d'un poste de radio.
Si vous voulez, moi, ma première expérience à la radio.
C'est la TSF d'ailleurs.
Ça s'appelait la TSF, j'allais vous le dire. J'ai 10 ans et mon père achète une radio. Une TSF, on ouvre la radio et à ce moment-là, j'entends Hitler. Et pour la première fois, j'ai compris comment, avec la voix, on pouvait se faire des amis et des ennemis. Et ce que vous essayez de m'apprendre en permanence pour mes chroniques, ici, eh bien, je l'ai senti déjà à ce moment-là. C'était extraordinaire. Hitler parlait et déjà... Il était mon ennemi. Je ne savais pas, mais il était mon ennemi. Sa voix ne me convenait pas. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Et cette proximité, rappelons-nous aujourd'hui que vous avez 40 millions d'auditeurs tous les jours à la radio. C'est fabuleux. C'est-à-dire que quand on rentre chez soi, maintenant on passe la radio. Alors, avant, et vous me posiez la question, dans Abou Kaïd, où j'ai grandi, à Boukaïd, on avait une radio collective. C'est-à-dire que mon père avait acheté pour les forêts et tous les gemmeurs qui étaient autour, c'est-à-dire ceux qui prenaient la gemme des pins d'Alep, pour en faire de l'essence térébenthine, de l'écolophane, eh bien, mon père avait acheté une radio et le soir, on écoutait la radio. On écoutait tous ensemble la radio. Oh, ça ne durait pas longtemps. Une demi-heure, trois quarts d'heure. Alors, la différence avec Alger, c'est qu'à Alger, on avait une radio personnelle. Et à Boukaïd, nous avions qu'une radio collective.
Kim, vous êtes sur Beurre FM, vous animez les matinales tous les matins. Vous écoutiez Beurre FM, pour vous, c'était un événement à ce moment-là?
Mais oui, en fait...
C'est incroyable, c'est ma culture, c'est vos parents écoutaient aussi en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire, la rencontre avec la radio, ça s'est passé comment?
En fait, moi j'ai commencé donc à l'âge de 17 ans sur une radio associative nantaise qui était gérée par Jean-Marc Ayrault, qui est devenu ensuite Premier ministre, qui était en fait un copain, parce que vraiment on le côtoyait au quotidien, c'était dans la ville de Saint-Herblain. Et c'était donc une radio associative, et à l'époque j'avais à Nantes, il y avait pas, on va dire, de médias ou de radio comme Beurre FM, Radio Beurre, qui en tout cas donnait la possibilité à des jeunes issus de l'immigration maghrébine et algérienne en particulier de s'exprimer. Donc dans ce centre socioculturel, j'ai eu le plaisir donc d'animer un jour un événement. C'était de la danse hip-hop. Et là, la directrice du centre vient me voir et me dit « Ah, dis donc, tu t'exprimes bien. Si tu veux faire une activité radio, on a une radio associative. Tu pourrais faire une émission. » Donc j'avais pris une émission le vendredi soir, que j'avais appelé Jet Rail en fait à l'époque
déjà,
parce que
déjà.
Oui, voilà, parce que on avait découvert le rail à travers la voix de Khaled et Mamie, et pour moi ça avait été un bouleversement dans le paysage audiovisuel français, parce qu'il y avait pas de gens qui me ressemblaient en termes d'image et
là,
de culture.
On était dans quelles années là?
90. Oui, 90. Et Beurre FM, j'en entendais parler, donc j'ai découvert la radio, et pour moi, après avoir fait un passage, bizarrement, j'ai fait un passage sur Alger à Alger Chaîne 3. Pendant plusieurs années, je faisais les saisons estivales et on faisait des extérieurs. Donc, j'avais été toqué à la porte et j'étais le premier, entre guillemets, franco-algérien né en France à venir faire de la radio en Algérie, quoi, aux côtés des Algériens. Et ça a fonctionné. Mon rêve, c'était Beurre FM. Parce que pour moi, c'était... arriver à Beurre FM, c'était vraiment, d'un point de vue symbolique, la réussite. pour un enfant d'immigré de s'imposer parmi une radio parisienne française respectée. Et dans mon inconscient, c'est aussi la volonté de pouvoir être un peu revendicatif, lutter contre le racisme, de défendre un peu les intérêts de nos parents, parce que j'avais le sentiment que voilà, ils n'étaient pas respectés à leur juste valeur et que ils avaient été un peu opprimés, qu'ils avaient toujours baissé la tête, etc. Et je suis venu toquer à Beurre FM. On m'a donné l'occasion de faire un essai. Et ce jour-là, je me rappelle, c'était Faisal Saidi qui me dit « Surtout, tu n'ouvres pas le standard ». Et bien sûr, bah, votre serviteur...
Faisal qu'on salue aujourd'hui.
Exactement, hein, qu'on embrasse.
Écoute, hein,
qui était directeur à l'époque.
Robert.
Exactement. Voilà. Et donc, il me dit...
Faisal qui était venu, qu'on avait investi, qui s'était occupé de notre fréquence à Marseille.
Exactement. Et donc, il me dit « Surtout, tu n'ouvres pas le standard. À peine le dos tourné. » Je voyais le standard clignoter, j'avais envie de répondre. Et la petite histoire, c'est que j'avais rencontré Khaled, le chanteur, quelques années avant, 5 ans avant. Et à l'époque, Khaled m'avait dit, on se connaissait pas du tout, m'avait dit, t'as vu toi, petit, si tu vas à Paris, en radio, tu vas réussir. Et moi, je pensais que c'était juste un encouragement comme ça, voilà, d'une star qui dit ça à un jeune. Et il m'a dit, si un jour tu viens à Paris, je viendrai dans ton émission et je te donnerai de la force pour que tu puisses t'imposer. Et ce jour-là, je décroche donc je dis que je viens de Nantes, je me la raconte un peu, je pensais être le meilleur animateur du monde, que j'allais révolutionner la radio, j'avais vraiment envie. Et à ce moment-là, Khaled était auditeur de Beurre FM déjà depuis longtemps. Il entend ma voix, et quand je dis Nantes, ça lui fait tilt, il appelle en direct, et il dit, j'arrive tout de suite à la radio. Donc, il arrive à la radio, je me fais engueuler par Faisal à l'époque, Saïdi, qui me dit, mais je t'ai dit de pas répondre, mais finalement, t'as eu raison de répondre, et c'était vraiment le destin. Khaled était venu à la radio, et après, vous m'avez donné la chance ici, à Beurre FM, de pouvoir m'exprimer.
Oui, et puis, ce qu'on oublie aussi, parce que les gens connaissent pas, tout le monde ne connaît pas l'histoire, vous vous êtes engagé, bien sûr, le racisme, la musique, etc. Et vous avez monté beaucoup d'initiatives sur, en tout cas, la solidarité, l'aide humanitaire, en particulier avec des radios d'Alger. Et vous aviez un partenaire...
Salem Sadoun.
Salem Sadoun.
Qui est mon mentor, exactement, en radio, en tout cas en Algérie. Et à Nantes, un monsieur qui s'appelait Patrick Marcelin, qui était ensuite, qui était à Radio Nantes et qui était parti sur Alouette FM. Et voilà, c'est les deux personnes qui m'ont véritablement donné envie. Et voilà, c'est... Aujourd'hui, j'ai...
Et on rappellera jamais assez que la radio, c'est pas un but en soi, mais c'est un moyen au service d'eux. On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins revient dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan.
Oui, les grands témoins aujourd'hui, on est en pleine radio, c'est Radio Mon Amour avec Edoui Gentier, Kim et Louis Bachou. Comment vous gérez, Edwige, la célébrité, le vedettariat? Vous marchez dans la rue. Bonjour, Edwige. On vous a écouté. Ça se passe comment, la célébrité?
Ah, dans la rue, c'est consultation permanente, en fait.
Ça,
en fait, c'est, vous savez, le mien, il tousse, le mien, il dort pas. Le mien, et voilà, bien sûr. Et sur Internet, la difficulté du téléphone, c'est que certains ont mon portable et je donne mon portable parce que, par exemple, en consultation, je vois que le bébé va mal et qu'il va être hospitalisé à Necker, et je donne mon portable pour que la maman me dise ensuite comment ça se passe, me tenir au courant. Dans ce cas-là, je donne mon portable parce que c'est l'urgence. Oui, mais après, elle va m'envoyer sur mon portable une photo des petits boutons sur la fesse. Qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, en fait, ça prend beaucoup. Mais je considère que la pédiatrie, c'est pas un métier, c'est une vie. Donc, c'est ma vie de tout le temps. Et aussi bien de mes enfants, mes petits-enfants.
Le fait comme ça, d'être reconnu, d'être célébré dans la rue, c'est une fierté, c'est une reconnaissance.
C'est plutôt une fierté et une grande conscience de ce que je dois faire pour les enfants. Je suis fascinée et de toujours, mais de plus en plus par les enfants. Et je voudrais vous dire vraiment, une des raisons qui m'anime en permanence, c'est que, comme je vous disais, je suis entrée à France Inter par Françoise Zolto qui disait « Le bébé est une personne ». Cette grande dame avait montré comment écouter un enfant, comment le comprendre et avait donné énormément un extraordinaire enthousiasme aux parents et même aux papas. Et moi, je dis que c'est pour ça qu'à l'époque, la natalité remontait. Eh bien, Depuis, on vous parle de l'enfant tyran, comment se débarrasser de son enfant. On les met dans une poussette avec une tétine, après une tablette, et maintenant on s'en débarrasse. Et après, on se dit, ah, mais on a des enfants qui vont pas bien. Oui, nos enfants ne vont pas bien parce qu'on ne s'en occupe pas bien. Donc ce message.
En tout cas, Edwige, cette passion, cette fougue qui vous anime, vous la résumez tout le temps. C'est un mot que vous sortez en permanence, c'est le mot de partage. Oui. Vous êtes tout le temps dans ce mot-là. Vous êtes en partage.
C'est ça.
Et vous partagez à la radio cet amour de la pédiatrie, etc. C'est le média qui vous fait partager, je veux dire, puissance 1000.
Oui, et quand j'ai des parents qui me disent « Ah ben, je vous écoutais, ma maman vous écoutait, j'ai grandi avec vous, parce que moi je suis maintenant pédiatre de deux générations », eh bien, ça me satisfait beaucoup, parce que je me dis « Voilà ». Et d'ailleurs, je dis souvent à cette jeune femme qui vient maintenant avec son bébé « Oh ben, je pourrais vous prendre comme carte de visite, parce que franchement, elle est bien
». Moi, Kim... J'étais dans un consulat algérien, j'étais en train de faire mes papiers, et le gars qui était là, il me reconnaît bien sûr, il me dit « Ah, regardez !» Il me montre une photo, et il me dit « Ouais, j'étais en photo avec Kim !» Donc, et puis, donc aussi, des fois, je suis à l'aéroport, et puis on me dit « Hey, vous saluerez Kim, etc. » C'est la célébrité totale, Kim, la radio.
Ben, je pense que c'est Beurre FM, les auditeurs de la radio sur Beurre FM, je pense qu'ils sont vraiment atypiques, et je le pense sincèrement pour avoir écouté bon nombre de médias. Je pense que Beurre FM a tissé un lien avec les auditeurs plutôt d'esprit familial, et c'est noble dans le sens où on peut être dans un endroit et c'est vrai, quelqu'un va venir, va vous prendre dans ses bras, vous le regardez, vous savez pas qui il est. Et lui vous connaît, vous êtes un membre à part entière de sa famille, et vous le regardez et vous dites « Mais est-ce que je vous connais ou j'ai oublié ?» Et non, c'est la première fois qu'on se voit, mais j'écoute Beurre FM. C'est-à-dire que la radio permet de créer un lien avec les gens, en tout cas sur Beurre FM, hein, je parle particulièrement, franchement, qui nous dépasse. Tout à l'heure, vous parliez de solidarité. J'ai jamais entendu un média comme sur Beurre FM où les gens sont solidaires. Parfois, par exemple, je prends un exemple très concret, une personne a besoin de médicaments, et ben dans la seconde qui suit, vous avez des gens qui vont vous dire je vous apporte ces médicaments pour la personne. Quelqu'un a besoin d'un logement, je suis sans abri, je suis en galère, les gens répondent, c'est incroyable. Il y a un lien, on va dire, il y a une confiance envers l'entité Beurre FM et le monde de la radio. Et comme vous l'avez dit, tout passe par la voix. Ça veut dire, je pense que les auditeurs savent si vous êtes sincère, pas sincère, si vous trichez, vous ne trichez pas. On peut pas mentir sur un nombre d'années. On peut mentir pendant 2, 3, 4 émissions. Arrivera un moment où les gens vont réellement déchiffrer qui vous êtes. Et il y a eu des moments de joie, de des fois de la peine. On a pleuré à l'antenne. On avait Wahid Bouzidi, animateur avec nous ici dans la matinale, qui nous a quitté, donc qui est décédé là, Rahmo. Et j'ai vu moi la réaction des gens après coup. Ça touche réellement les gens. C'est pas une entité commerciale et on consomme point. Et moi, ça m'a toujours surpris. Alors aujourd'hui, quand je rencontre des gens à l'extérieur, le seul sentiment que j'ai, c'est une fierté, mais c'est même pas, elle est même pas pour moi. Quand je l'explique aux gens, c'est plus vis-à-vis de mes parents. De me dire, et de dire à mes parents, bon voilà, vous êtes arrivés en France, vous avez peiné, vous êtes travaillé en usine difficilement, que ce soit le papa ou la maman, vous avez souffert, vos enfants ont eu la chance d'étudier alors qu'ils étaient illettrés, on a tous été bacheliers ou plus, et cette reconnaissance de la radio, en vérité, elle m'apporte plus de bonheur dans le regard que ma famille porte sur moi, que moi-même pour moi-même, en fait.
Mais en plus, la radio, Kim, elle rend modeste. Par rapport à la télé, on dit souvent la télé rend fou. Mais la radio, c'est aussi une école de modestie. C'est-à-dire que quand vous croisez des gens, etc., vous êtes plein d'humilité, parce que c'est les gens, ils vous considèrent comme de la famille, et vous n'avez pas le droit de les décevoir.
Ah non, mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et ça nous dépasse, hein. Et je vous donne un exemple même très concret. Il m'est arrivé d'aller dans un restaurant il n'y a pas longtemps. Un client, je dis bien client, le patron, ça pourrait se comprendre, voilà, c'est le gars de Beurre FM, allez, je l'invite pour la com, pour la pub, ok. Mais là, c'est un client. C'était donc à Montreuil, rue de Paris, dans un restaurant où qui faisait des brochettes. Je vais pour payer et le patron me dit non, c'est déjà réglé. Je le regarde, je dis comment ça c'est réglé? Oui, c'est le monsieur là-bas là qui est tout seul, qui a réglé. Un monsieur, si je me rappelle le prénom, il s'appelle Yacine. Le gars, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais juste parce qu'il est auditeur de la radio, parce qu'il apprécie Beurre FM et parce qu'il écoute depuis un certain nombre d'années, il a fait ce geste. Mais franchement, vous êtes touché.
En tout cas, c'est plus fréquent que vous pensez. Moi, j'ai beaucoup aussi entendu ça. Louis Bachou, vous faisiez la radio des jeunes. Vous avez aussi à Alger en 1950. Il y avait aussi cette complicité avec l'auditoire. Vous rencontriez des gens dans la rue. Vous aviez une forme de célébrité. Ça se passait comment?
Non, il n'y a pas eu ce genre là. Proche de proximité, de partage. Non. Non, on parlait principalement aux jeunes, c'est-à-dire on leur parlait du sport, on leur parlait de nos dissertations que nous allions faire, dissertations philosophiques.
Bien vous prenez des communications téléphoniques?
Il n'y avait pas de communication téléphonique. Le téléphone, rappelons-nous, 1950, c'est, il n'y a pas de
pas
téléphone
ça, ouais.
Partout. Hein. Nous avons changé. Nous avons changé. Actuellement, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'avec la télévision, avec le cinéma, avec l'intelligence artificielle et les ordinateurs, eh bien, cependant, vous avez 40 millions de personnes qui écoutent la radio, parce que c'est leur intimité. C'est le mot qu'il faut maintenant trouver. L'intimité, c'est la radio. C'est-à-dire que moi, quand je suis seul, j'écoute la radio.
Et c'est vrai ce que vous dites. Chaque nouvelle technologie, chaque nouvelle découverte, chaque nouveau média, on dit que la radio est menacée, mais à chaque fois, elle s'en sort.
Et absolument, elle s'en sort. D'ailleurs, très bien, qui peut se flatter, quelle télévision peut se flatter d'avoir, par la radio, 40 millions d'auditeurs.
D'accord. Est-ce que vous pouvez, revenons à la radio de 1950, c'est ça qui m'intéresse, nous parler de votre équipe, l'équipe qu'il y avait autour du micro. C'était quoi? C'était des filles, des garçons?
Non, c'était...
C'était un mélange
de copains et de copines. On va être très clair. C'est-à-dire qu'on était environ une dizaine de personnes. Il y avait même un...
Vous étiez 10 autour du micro?
10 autour du micro, et on se passait le micro chacun après l'autre, et on se donnait une thématique chaque fois.
Par exemple,
qui gagnerait le prix de la ville d'Alger, qui gagnerait le prix de philosophie de la ville d'Alger, ou le prix de mathématiques de la ville d'Alger. Bon, par exemple, c'était un exemple. Et nous avions, à cette époque, André était particulièrement jeune et particulièrement intelligente. Donc, elle avait la possibilité de montrer à ses copains et à ses copines, qui l'écoutaient naturellement, combien elle était brillante. Donc, on lui laissait très souvent le micro plus longtemps qu'aux autres. Et chacun, nous partions en disant, sur la philosophie, normalement, au lycée Gautier, il y avait deux lycées, lycée Gautier et lycée Bugeaud. Lycée Gautier et lycée Bugeaud, bon, eh bien, vous allez avoir telle personne qui va être le meilleur ou telle autre. On parlait aussi, quand on faisait la rue Michelet. La rue Michelet était la promenade de tous les jeunes, enfants.
Mais aujourd'hui, la rue Didouche-Moine.
Oui. Et cette rue Michelet, vous m'excusez, je garde le même nom parce que c'est un souvenir. Et cette rue Michelet était le lieu de vie de la jeunesse. Donc, on parlait aussi de la rue Michelet avec l'automatique qui était. L'endroit où l'on allait prendre nos sandwichs très rapidement ou le café, l'automatique, le cocardi et ainsi de suite.
Alors, on rappelle simplement que c'est passionnant, hein, Louis Bachou, que ensuite, le déclenchement de la lutte armée, c'est en 54, que le pouvoir colonial met en route la chaîne 1 en arabe, la chaîne 2 en kabyle, pour essayer de s'adresser aux populations algériennes, qu'à ce moment-là, le FLN, dans son mouvement de libération, passe sur une radio qui s'appelle Saout al-Arab, qui est la radio du Caire, et qu'un an après, le FLN fait sa propre radio à destination des populations algériennes. On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan.
Louis Gentier, Kim, Louis Bachou, le monde de la radio, les grands témoins, dernière ligne droite. Et Louis Gentier, vous avez fait 25 ans de France Inter, de France Info, et vous continuez à faire de la radio. On a l'impression que vous allez, entre guillemets, mourir sur les planches.
Ah, ben hein? Oui, j'espère bien. Vraiment, c'est tant que je peux voir des bébés, parce que je travaille toujours comme pédiatre, ils me nourrissent et ils me donnent le cerveau qu'il faut pour continuer. Ils me donnent aussi le devoir qu'il faut. Et parce que je dois dire que pour moi, l'enfant, il est universel. Donc il faut savoir que quand l'enfant vient au monde, quel que soit qu'il vienne d'Alger, qu'il vienne de Nantes, qu'il vienne, comme moi, de partout. Vous voyez, on a écrit mes mémoires, un livre s'appelle « Maman de tous les enfants du monde ». Parce que je suis, j'ai été très vite au Vietnam, j'ai été très vite en Océanie, je me suis occupée de la Commission de la Santé du Pacifique, j'ai vu des enfants grandir dans des paillotes, dans des cases, et puis à Paris, de façon très différente. Mais chaque fois, il me ramène à l'enfant universel, aux besoins du bébé sapiens, du bébé d'Homo sapiens, tel qu'il a été conçu depuis la nuit des temps, depuis 300 000 ans. Et on a oublié ça. On veut qu'il vive comme nous. Mais non, le bébé, il faut revenir aux fondamentaux. Donc c'est un peu ma croisade. C'est alors, d'expliquer aux parents les fondamentaux du bébé.
Ceci explique cela. Vous nous avez expliqué un peu votre itinéraire et votre histoire. Donc c'est très ouverte. La radio, c'est un média où on peut se poser. Là, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on est dans l'immédiateté, ça va très, 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 très vite. La radio, on se pose un petit peu.
Ah oui, parce
donc
que la radio, on
a le temps de parler un peu.
La radio, on écoute et on n'a pas d'image. Et parce qu'on n'a pas d'image, on n'est pas dispersé. Vous voyez, on ne se dit pas qu'est-ce qu'elle porte comme veste, qu'est-ce que ce monsieur a comme coiffure, comme ça. On n'est pas dispersé, on est dans l'écoute. Et du coup, on est beaucoup plus attentif et le message est beaucoup plus intéressant. Et c'est comme si on sentait l'auditeur en même temps qu'on parle. Vous avez dit quelque chose de très important, Nasser. Vous avez dit, on a un devoir aussi vis-à-vis de l'auditeur. Un devoir d'honnêteté, un devoir que s'il me voit dans la rue, parfois on me rencontre et on me dit « Ah, je vous ai écouté !» Et je dis « C'était bien ?» Ou « Ah, vous vous êtes occupé de mon enfant, je m'en suis bien occupé !» Vous voyez, j'aime qu'on me dise avec le recul « Oui, c'est mon devoir voilà, d'avoir été respectueuse de l'auditeur. » Pas dire n'importe quoi, dire vraiment ce qui est juste.
Kim, la radio a acquis ses lettres de noblesse depuis très longtemps. Hein. Elle a servi notamment pour des luttes anticoloniales, des luttes antiracistes, des luttes pour la promotion des femmes, pour la diversité, et j'en passe. Aujourd'hui, les jeunes, est-ce qu'ils écoutent encore la radio? Moi, je vais dans... Il n'y a pas longtemps, dans une brocante avec mon fils qui vient d'avoir 14 ans, et puis il voit une radio, un téléphone même, il me dit c'est quoi ça? Donc ils ont plus le poste radio comme on avait, ou les postes de téléphone, ils sont sur leur clé USB, ils sont sur Internet, ils sont. Est-ce que les jeunes générations écoutent la radio comme nous on l'écoutait ?
Je pense qu'en fait, il y a eu un petit moment, entre guillemets, où les jeunes se sont un petit peu détachés de la radio. On a vu une baisse, entre guillemets, de la consommation de la radio parce qu'il y a eu les plateformes musicales qui sont arrivées, comme Deezer, Spotify, Apple, etc. Et donc les gens avaient leur propre playlist au niveau musique et mettaient ça en Bluetooth dans la voiture ou dans les oreillettes. Mais petit à petit, moi, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'on le voit maintenant. Il y a beaucoup de gens qui reviennent vers justement la radio, parce que je pense que le lien avec la radio, il est particulier. Écouter de la musique en voiture quand on fait un parcours, c'est super super bien, on s'évade, etc. Mais à un moment donné, l'humain a besoin de l'humain, et sans une voix juste pour annoncer, désannoncer un titre, hein. Je parle même pas de concept, de talk ou autre, mais rien que ça, c'est important, parce que on a quand même l'impression d'être dans un environnement justement où on a besoin de cette interactivité et l'interaction, on va dire, sociale avec l'humain. Et pour moi, la radio restera, quelle que soit, on va dire, l'évolution technologique, à mon sens, hein, on peut pas présager de l'avenir, mais en tout cas un média indispensable. Et même si les gens reviennent sur la consommation de radio à travers des podcasts, c'est qu'on a absolument besoin d'entendre de la voix humaine, quoi. Soit parce qu'on
aujourd'hui, on parle plus trop de radio, mais on parle de médias audio. C'est-à-dire qu'on associe à la fois la radio et le podcast. Aujourd'hui, le podcast, des fois, dépasse largement les émissions en direct. Moi, j'ai aussi des enfants à la maison, et je suis stupéfait et étonné quand je leur parle des fois de certaines thématiques, ou livres, ou événements. Ils l'ont déjà écouté sur le podcast. Ils disent, mais comment tu es au courant de ça? Ben, j'ai écouté le podcast. Ben oui. Pour eux, ça semble tellement évident, mais ils sont dans la radio. Alors, en fait, ils sont dans l'audio. Donc le média radio, c'est aussi adapté aux nouvelles générations.
Bien sûr, la technologie aujourd'hui nous permet d'offrir ces podcasts en simultané. Vous terminez l'émission. À la seconde près que le top horaire de la prochaine heure démarre, le podcast est déjà en ligne. C'est automatisé grâce aux outils qui nous permettent de le faire. Mais aujourd'hui, la radio, elle s'est aussi un peu diversifiée, parce qu'il n'y a pas que l'audio. On propose du contenu vidéo, ce qui n'existait pas avant. Alors, certains assimilent ça à de la télé, mais c'est même pas de la télé, parce qu'il n'y a pas les mêmes moyens en termes de réalisation. Et on s'aperçoit que finalement, le contenu audio proposé aussi en vidéo, interpelle et intéresse les auditeurs, ou des gens qui auraient, je sais pas, raté un moment ou veulent revenir sur un moment, peuvent faire un replay, réécouter, et c'est ce qui intéresse les gens. Tout à l'heure, on parlait de la petite enfance. Je pense que là autour de la table, on est tous parents, donc un moment ou un autre, moi, quand je découvrais mon rôle de père, je savais pas comment gérer mon enfant, donc j'allais sur internet, j'essayais de trouver des sons qui me permettaient de comprendre pourquoi le petit pleure tout le temps, surtout que j'avais un enfant qui pleurait 26 heures sur 24 à la naissance pendant 4 mois, donc ça a été difficile. Et de comprendre ce qui allait pas, ou pourquoi, ou comment. Donc finalement, moi, je suis convaincu que malgré l'évolution de la technologie, la radio reste la radio. Et tant que les hommes, et je pense que ça sera jusqu'à la fin des temps, auront besoin des hommes, on n'a pas de souci à se faire, ça va continuer.
Louis Bachou, c'est les années 50, vous avez fait la radio pendant 2 ans, je crois, 50, oui, 52. Ça vous a marqué, ça vous a... Ça vous a donné des armes pour le futur, ça. Oui. Vous aviez 15 ans, entre 15 et 17 ans. Ça vous a apporté quoi, ces 2 ans de radio?
Ça m'a apporté d'abord l'obligation de penser aux autres quand on va parler.
C'est important ce que vous dites.
C'est beaucoup plus important. C'est à partir de 10-12 ans...
On parle pas pour soi, parle aux autres.
Voilà, brutalement, on parle aux autres. Et on va leur donner quelque chose qui est le début d'une réflexion. D'une réflexion qui peut être commune par la suite. Donc, si vous voulez, et c'est pour ça que je trouve que ça a été très important pour moi, parce que pour la première fois, tout dépend de l'âge, mais pour la première fois, je m'apercevais qu'il y avait terriblement un très grand nombre d'autres qui étaient tout autour de moi, alors que avant je vivais dans mon petit réceptacle avec mon petit environnement, et brutalement tout s'élargissait. Et je crois que c'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui, en face de ce que j'appellerais le spectacle, car les écrans, c'est le spectacle aujourd'hui. On peut parler avec les autres depuis la radio.
J'aimerais que tous les trois, vous me commentiez très rapidement une formule. La différence entre la télévision et la radio. La radio, c'est comme la télévision, sauf que l'écran est beaucoup plus large. Êtes-vous gentil?
Bien, la radio, très rapide. Oui, La radio, c'est quand on écoute, quand on peut que écouter, parce que c'est un moment où on ne regarde pas, on est dans son activité, où on est la nuit entre deux insomnies, et on ne peut que écouter. Alors on n'a que les oreilles, et c'est intense.
Et l'imagination, l'imaginaire...
navigue.
Kim.
Oui, c'est ça, pour moi, la radio, c'est l'imaginaire. Tout passant par la voix, il y a une relation directe avec l'auditeur, et c'est vrai que l'auditeur va fantasmer une situation. Et j'en veux pour preuve que quand vous rencontrez une personne, ah, je t'imaginais pas comme ça. Ah, je te voyais pas comme ça. Ah, finalement, tu corresponds à ce que j'avais imaginé. Donc, on a vraiment un lien direct, et je pense que c'est le lien le plus direct.
Louis Bachou.
Moi, je pense que la radio, c'est le partage de la pensée.
Ah oui.
Alors, on termine cette émission. La radio, vous l'aimez. Comment vous diriez à la radio que vous l'aimez toujours, que vous l'aimerez pour toujours, Edoui Gentil?
Oui, eh bien, merci à la radio, parce que la radio, elle est éternelle. Elle rend notre parole impérissable, justement, aujourd'hui, dans la tête des personnes. C'est extraordinaire quand on vous dit « Je vous ai entendu, j'ai grandi avec vous ».
Moi, la radio m'a véritablement apporté ce que j'ai de, on va dire, de plus joyeux en moi. Je fais pas de la radio ni pour un salaire, ni pour la notoriété. Je pense qu'elle me rend, moi, en tout cas directement, très heureux, et j'espère, et je l'ai toujours pensé comme ça, même après ma fin de carrière, on va dire, professionnelle, si je peux encore continuer sur une petite radio associative ici ou là, je le ferai bénévolement, parce que quand on est amoureux de la radio, j'ai du mal à l'expliquer, mais je pense que c'est un peu comme certains artistes qui vous disent « Ah, j'aimerais bien mourir sur scène ». La radio, c'est un peu ça. On a un amour qui est partagé avec l'auditoire, et il est sincère.
Louis Bachou.
Moi, c'est l'échange permanent. La radio, c'est la possibilité d'échanger avec les autres ce que je pense, et j'attends d'ailleurs des retours.
Tous les trois, Louis Bachou, Kim et Louis Gentil, merci de nous avoir fait partager votre amour de la radio, et à très bientôt.
Merci.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.